Vous êtes sur RTL. En direct du studio 11, au 56 avenue Charles de Gaulle à Neuilly-sur-Seine, on défait le monde dans RTL Soir, saison 2, épisode 28. Voici Marie Mollet, Brice Dugénie, Laurent Tessier, Cyprien Sini, et ce soir, la Dream Team accueille un nouveau membre. Vous l'avez vu dans le 1945 sur M6, vous l'entendez régulièrement sur RTL. Voici...
Attends, je suis pas au courant là. Ça commence tout de suite? J'étais en train de finir la prépa du journal inattendu de Vianney. Je descends, j'arrive.
Excusez-moi Ophélie, mais je m'apprêtais à annoncer Amandine Bégaud.
Énorme. La fille a cru qu'elle allait tout faire. Bon bah je vous retrouve demain à 12h30 avec Vianney. Alors, bonne émission la Dream Team.
Et donc voici Amandine Bégaud.
Sympa ce petit message d'Ophélie. Sympa ce petit jingle. On embrasse bien sûr Ophélie. Merci pour ce... mot de bienvenue.
Bienvenue Amandine.
Bah c'est gentil. On commence avec le sommaire, Cyprien.
1, 2, 3, sommeil, rythme de fou, confinement en cette journée internationale du sommeil. On défait le monde, se met au lit avec vous et fait le point sur la façon dont nous passons nos nuits. Le plastique, c'est fantastique, à tel point qu'on n'en a jamais autant consommé. Mais peut-on vraiment se passer du plastique? On allumera la lumière sur le sujet. Comme tous les vendredis, le loser, le grand perdant de la semaine. Et alors cette semaine, Marie, c'est un peu l'histoire de l'homme qui s'est retrouvé dans la tempête sans trop comprendre pourquoi.
Oui, Pascal Sorio, le patron d'AstraZeneca, cherche toujours un vaccin contre la polémique.
Le billet retour quand on vient sur une info qui a disparu de la circulation. Et Brice, vous nous ramenez au Liban.
Oui, 7 mois après l'explosion du port de Beyrouth, ce n'est toujours pas l'heure de la reconstruction.
D'ici 20h, vos 3 infos pour briller au dîner. Dans Marche ou Rêve, des mamies youtubeuses, oui, à ne surtout pas rater. Et bien entendu, le cadeau, une chaîne IFI ultra moderne de compète, la terrible question du jeu. Ce sera vers 19h40, on défait le monde, saison 2, épisode 28.
Allez hop, on y va, en route pour l'aventure.
Amandine Bégaud, voilà.
Alors, j'ai pas du tout sur RTL.
J'ai pas du tout une grosse pression.
C'est bizutage.
C'est ça. Ouais. Bon, et alors on m'a expliqué que la tradition, Cyprien, c'était de commencer par le surf de la semaine. Alors on y va.
Eh bien, un an après le début de cette crise sanitaire, je crois qu'on pourrait résumer la situation comme ça.
On tourne en rond, merde. On tourne en rond.
Oui. Un an après, on sent que ça a bien avancé. Hein. Côté médecin, mardi matin, professeur Pialou sur BFM, analyse de la situation.
On ne peut pas se passer, excusez-moi, d'un confinement qui soit un confinement comme la première vague.
Et exactement le même jour, au même moment, à la même heure, le professeur Combes sur Europe.
Ben, le confinement, en fait, je pense que c'est la pire des solutions.
Hein. Tu m'étonnes quand on en rond. Sinon, qui a les chocottes de se faire vacciner mais n'ose pas le dire et trouve des excuses bidons pour pas y aller, hein? Eh ben, c'est Jean-Luc Mélenchon. Écoutez, on sent le gars qui le sent pas du tout, justement, mais qui veut pas trop le dire.
Alors, mon médecin de famille m'a proposé 2 lettres et je veux prendre la place de personne. Mon âge fait que normalement on aurait déjà dû me vacciner 10 fois, hein, mais je ne veux pas prendre la place de quelqu'un d'autre. C'est moral, hein, ça n'a rien de sanitaire ce que je suis en train de vous dire.
Mais bien sûr, dis donc, ça serait pas plutôt.
La trouille, non?
Ça doit être ça, Laurent.
Ouais, hein, bon, sinon, l'info rafraîchissante de la semaine, c'est Jean Lassalle, candidat à la présidentielle et surtout. Bah, toujours aussi optimiste. Hein.
En cas de second tour, Le Pen-Macron l'année prochaine, vous voterez pour qui?
Pour moi. Je serai en finale. Il va y avoir un effet de surprise, tout le monde le dit.
Ah ouais, tout le monde le dit, hein, tout le monde. Confiance inébranlable. Parce que je vous rappelle qu'en 2017 déjà...
Je m'apprête à devenir président de la République, madame. Moi, je suis déjà habité par la fonction.
Tellement sûr de son coup, Jeannot, qu'il prévoyait du lourd.
Mon élection va avoir le même retentissement que celle d'Obama aux États-Unis il y a 12 ans, non, 8 ans.
Ah ben, au moins. Hein. Après cette année, on sent quand même qu'il est bien sur l'info. Hein. Sur les dossiers chauds, il n'y a rien qui lui échappe. Genre le vaccin AstraZeneca, là-dessus, il est super au point.
Macron, que je ne critique pas, mais il peut très bien tomber sur le Selmeca, là, sur ce fameux vaccin.
Attention, sur le quoi, là? On peut le remettre?
Mais il peut très bien tomber sur le Selmeca, là, sur ce fameux vaccin.
Le Selmeca, c'est pas gagné, quand même. Hein. Enfin, saluons tous ensemble le retour en France de Manolo. Ben oui, Manuel Valls. Vous savez, lui qui disait...
M'installer définitivement
à Barcelone.
Définitivement 3 ans, hein, puisque cette semaine, dans Le Point, bah, c'est le retour car...
En participant tout simplement au débat, je m'exprimais dans ce débat.
Ah, la présidentielle, ce que ça fait faire. Hein. Et ce qui est bon avec Manuel Valls, c'est qu'en arrivant en Espagne il y a 3 ans, il sortait les violons pour dire qu'il était plus catalan que les Catalans, souvenez-vous.
Oui, oui, c'est le prochain. Je veux être le prochain maire de Barcelone depuis que je suis né. Ma relation avec Barcelone a été intime. Et nous sommes une famille que j'ai toujours aimée. J'ai toujours aimé les Barcelonais. Mes ancêtres se sont impliqués dans le monde politique.
La première fois que j'ai dit « je t'aime », je l'ai dit en catalan et je ne l'ai pas dit en français. Et ces choses-là marquent toute une vie.
Ah, c'est beau. Eh bien, cette semaine, il a fait en version française.
Ma mère vit à Paris, des amis, d'un cri d'amour pour la France. Je suis tellement français parce que j'ai appris à l'école de la République cet amour pour mon pays. De sa culture, bien évidemment, son cinéma, sa littérature, je suis fondamentalement français.
Allez, sans rancune, Manu, re-bienvenue et vivement la semaine prochaine.
Merci beaucoup, Cyprien. Première grosse info du soir. C'est ça ? On commence par ça ?
RTL Soir, défait le monde.
Vous nous avez promis de jouer à 1, 2, 3, sommeil. Cette première grosse info du soir, elle concerne la façon dont nous passons nos nuits.
Et oui, car aujourd'hui, c'est la journée internationale du sommeil. Le sommeil, bon, un sujet qui nous concerne absolument tous. Du coup, Laurent, hein, vous qui dormez très peu.
Moi, je vous confirme.
Vous avez multiplié les nuits blanches pour mener l'enquête sur la façon dont nous dormons.
Oui, il y a un constat dans une enquête publiée cette semaine. Un quart des Français déclarent qu'ils ont eu au moins une moins bonne qualité de sommeil pendant le second confinement, hein, celui de fin octobre à mi-décembre. Le plus souvent, des difficultés d'endormissement, des réveils nocturnes plus fréquents. Cela vous arrive, j'imagine ?
Oui, moi souvent.
Voilà, le constat est plutôt clair.
Dormez bien, vous.
Ça dépend. Ouais, mmh. Ça va, globalement, ça va.
Alors, on compte 2 réveils en moyenne pendant la nuit d'une durée d'une demi-heure à chaque fois avec davantage de troubles anxieux ou dépressifs. Le docteur François Dufaurez est médecin du sport et du sommeil à l'hôpital Hôtel Dieu de Paris. Un public en particulier appelle pour prendre rendez-vous.
Les gens de plus en plus jeunes, entre les gens que je vois en ce moment, c'est entre 25 et 40 ans, hein, qui sont souvent dans des professions libérales et qui ont vraiment très peu de visibilité sur ce qui est en train de se passer. Et ça déclenche des crises d'angoisse qui se manifestent par des troubles du sommeil et des éveils nocturnes.
39% des jeunes ont vu leur qualité de sommeil diminuer pendant le second confinement.
Et alors les Français, on sait combien de temps ils dorment en moyenne chaque nuit ?
Alors c'est du déclaratif, hein. En fonction des études, on a un temps de sommeil qui se situe entre 6h40 et 7h15. Et vous allez sûrement me dire l'éternelle phrase « Laurent, c'était donc mieux avant !»
Laurent, c'était donc mieux avant !
Voilà, merci. Il y a les 50 ans, oui, c'était mieux avant pour le docteur François Dufaurez.
Il semblerait qu'on ait perdu à peu près entre une heure et 1h30 de sommeil, et qui est lié vraiment au mode de vie, au fait qu'il y a de plus en plus de temps de transport. L'influence des écrans, l'influence de la stimulation de la vigilance dans la journée, et surtout en soirée dans la nuit, a grignoté notre temps de sommeil.
Mais alors c'est grave, docteur, de perdre en qualité de sommeil ?
Amandine, ça peut avoir des conséquences à mauvaise humeur, troubles de la concentration, de la mémoire, prise de poids, réaction sur le système immunitaire, on est plus sensible aux infections, risque d'hypertension, troubles du rythme cardiaque, mais un autre facteur...
J'ai l'impression que vous me décrivez.
Non, il y a un peu hypochondriaque, faut faire attention.
Sur la prise de poids, c'est pas faux.
Mais un autre facteur peut perturber notre qualité de sommeil, notamment un monsieur ou madame à qui nous accompagne peut transformer nos nuits en cauchemar, et ça ne concerne pas que les couples les plus âgés. Écoutez, le docteur Sylvie Royan-Parola, présidente du réseau Morphée, c'est un organisme consacré à la prise en charge des troubles chroniques du sommeil.
Moi, ce qui me frappe, c'est qu'actuellement, on voit beaucoup plus de couples jeunes qui font chambre à part, alors qu'il y a 30 ans, c'était vraiment pas du tout une habitude que l'on avait.
Ouais, des jeunes couples qui font chambre à part pour plusieurs raisons. J'ai du mal à dormir parce qu'ils ronflent, ils bougent beaucoup. Et résultat ?
Il y en a un qui dort dans la chambre et malheureusement, l'autre dort souvent dans des conditions de sommeil moins satisfaisantes, parce que c'est souvent sur le canapé dans le salon et c'est pas des conditions de sommeil qui sont très bonnes.
Et peut-être qu'autour de cette table, ça vous est déjà arrivé.
C'est triste en tout cas.
Je sais pas qui vous visez. Alors, quel conseil peut-on donner, hein, c'est important de donner des conseils, oui, à celles et ceux qui passent des nuits difficiles en ce moment.
Alors, retrouver des repères, trouver un rythme régulier avec un horaire de coucher, de lever, et halte aux idées reçues comme dormir avant minuit compte double, l'essentiel, voilà, et de se reposer, de rester au lit. Alors ça, non, on oublie pour le docteur Sylvie Royan-Parola.
quand on commence vraiment à mal dormir, la tendance à essayer de dormir plus ne fonctionne pas. Il faut au contraire essayer de passer moins de temps dans son lit, c'est-à-dire se coucher uniquement quand on a sommeil et se lever le matin quand on est réveillé.
Et dans la journée, les médecins conseillent de marquer une vraie coupure avec la nuit, hein, profiter de la lumière du jour, faire de la gym chez soi, sortir un moment pour une marche rapide ou un jogging. Et pour la sieste, 10 à 30 minutes au cours de la journée. Pour une longue sieste, compter 1h, 1h30, le temps d'un cycle complet. Mais c'est comme pour les antibiotiques, ce n'est pas automatique.
La sieste ne convient pas nécessairement à tout le monde. Il y a des gens qui vont en tirer bénéfice, d'autres pas. Mais pour quelqu'un qui dort bien dans la nuit, faire une sieste n'apporte strictement rien de plus.
Et pour les écrans, on en consomme énormément, avec notamment les réunions en visio en ce moment. Et on rappelle la règle, s'arrêter 1 heure avant d'aller se coucher, pas de télévision dans la chambre. Après, généralement, quand on est insomniaque, il faut compter sur un programme de 6 à 8 semaines pour améliorer la qualité de son sommeil.
Bon, et le téléphone, on le met loin, 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 de ne pas le regarder. Qui dort mal autour de la table? On est 5?
Tout le monde.
Moi.
Tout le monde.
Moi,
c'est
pas. Marie, ouais.
Moi, je dors mal, ouais.
Ouais.
Moi. Moi, ça va à peu près, non, je m'en sors.
Ah. Ça m'étonne pas.
Ouais.
Et Laurent, vous, mais c'est parce que vous avez une petite fille encore.
Et Amandine dort bien.
Moi, je dors bien. J'ai un fils qui me réveille tout le temps, mais je dors bien. 19h28. Oui, mais je dors bien quand même. Ouais. Vous restez avec nous sur RTL dans un tout petit instant. La première info pour briller au dîner de la soirée. Marie va nous parler coiffure. À tout de suite.
RTL Soir, on défait le monde. On défait le monde dans RTL Soir. C'est l'heure de l'info pour briller au dîner.
La première info pour briller au dîner, c'est avec vous Marie.
Oui, vous savez que les coiffeurs vont rester ouverts pendant ce troisième confinement. On l'a appris ce matin.
C'est la bonne nouvelle du jour.
On l'a appris ce matin sur RTL.
Cyprien, ça vous concerne.
Laurent et moi. Ouais,
moi je dis rien.
Et Damien non plus en régie.
Merci beaucoup Amandine.
En tout cas, ça m'a donné envie de vous parler d'histoire de la coiffure à travers les âges. Eh bien, sachez qu'il y a un élément qui rythme l'évolution des modes capillaires. C'est la calvitie précoce des empereurs, des monarques, des souverains qui ont tenté tous les subterfuges pour la cacher. Louis XIII, devenu chauve trop tôt, le premier se coiffa d'une perruque qui sera ensuite adoptée par toutes les cours d'Europe. Louis XIV, tombé malade, perdit brutalement ses cheveux et perpétua le port de la perruque version baroque, poids 1 kg. Bien plus tôt, Jules César, calvitie fulgurante, adopta la couronne de laurier pour tenter de la dissimuler.
Ah,
Constantin, crâne éparse, usa de diadème pour rassembler ce qui lui restait de cheveux. Bref, on apprend que le tabou de la calvitie remonte en fait à la nuit des temps.
Les lauriers pour cacher la calvitie.
Oui, incroyable.
On va essayer avec Cyprien.
Ça vous irait bien.
Mais écoutez, moi je suis très content comme ça.
Allume la lumière.
À 19h32 sur RTL, on allume la lumière. Un spécialiste nous éclaire sur un sujet qui fait l'actualité.
Et cette semaine, on a appris qu'avec la pandémie, on n'avait jamais autant consommé de plastique dans le monde.
Paradoxal, puisqu'on n'arrête pas de vouloir le faire disparaître. On s'est donc posé 3 questions. Est-ce qu'on peut arriver au zéro plastique un jour? Quelles sont les alternatives et surtout, comment en sortir?
Et pour répondre à ces questions, on a contacté Kako Naït Ali. Elle est docteure en chimie des matériaux, spécialiste des polymères. Non, les polymères, c'est le mot compliqué pour dire plastique. Retenez-le, ça peut pouvoir vous servir plus tard. Et d'abord, est-ce qu'une vie sans plastique, c'est possible?
On a une volonté de le réduire, mais d'un autre côté, on sait que d'une certaine manière, on ne peut pas s'en passer dans certaines situations, notamment dans le médical, parce que c'est un matériau qui a des propriétés très particulières. Alors notamment pour les masques chirurgicaux ou pour les emballages. Donc c'est un matériau qui est à la fois flexible, étanche, qui a un coût très faible aussi. C'est ce qui fait qu'il est très utilisé. Le problème, c'est que on a des matériaux de type plastique qui ne sont pas remplaçables facilement. Je vous donne un exemple. Une bouteille d'eau, il faut que la bouteille soit étanche. Sinon, ça marche beaucoup moins bien. Donc, si vous la remplacez par une bouteille en carton, par exemple, il vous faudra obligatoirement un film plastique à l'intérieur pour faire en sorte qu'elle soit étanche. Donc aujourd'hui, tout ce qui remplace le plastique et qui est constitué de carton contient un film plastique à l'intérieur pour obtenir ses propriétés d'étanchéité au gaz ou au liquide. Donc finalement, on remplace du plastique par un autre matériau qui contient du plastique.
Donc la vie sans plastique, ça paraît assez illusoire, mais qu'est-ce qu'on fait?
Eh bien, il y a quand même une alternative, c'est vivre avec, mais différemment. Écoutez notre spécialiste du plastique.
On peut éventuellement trouver des alternatives au plastique jetable. Au plastique tout court, j'en doute. Parce que finalement, c'est ça le problème. Le problème aujourd'hui, c'est qu'on utilise beaucoup de jetables. Et donc, on a beaucoup de déchets et qu'une partie de ces déchets se retrouve dans l'environnement et dans la nature. Et quand on a des déchets, de savoir les trier plus facilement, d'avoir moins de variété, je dirais, de matériaux dans l'emballage alimentaire, pour avoir des filières de recyclage qui soient beaucoup plus efficaces. Parce qu'aujourd'hui, ce qu'on constate, c'est qu'on interdit plastique, mais on le substitue par des matériaux qui vont être différents, qu'on va dire biosourcés, etc., etc. Mais finalement, on diminue pas la quantité de jetables qu'on consomme, hein, qu'on utilise. On a autant de flux de déchets qu'avant. Donc, il faudrait en effet modifier notre façon de consommer. Les industriels devraient aussi faire en sorte d'utiliser un emballage quand on en a vraiment besoin. On n'en a pas toujours besoin.
Bon, mais il y a quand même des solutions.
Du coup, oui. Mais en fait, selon Cacone à Italie, en se focalisant sur la pollution plastique, eh ben on est peut-être en train de commettre une erreur. C'est assez étonnant, écoutez.
Le plastique, c'est un matériau qui flotte, qui se déplace assez facilement. Ça ne veut pas dire que tous les autres emballages ne se retrouvent pas dans la nature. Hein. Et ça ne veut pas dire qu'ils n'ont pas non plus d'impact sur l'environnement. La problématique qu'on risque d'avoir aujourd'hui, c'est de remplacer le plastique par un autre matériau en se disant qu'il y a une pollution qui n'est pas vertueuse et une pollution qui est vertueuse. Ce que je vous dis là, ça peut paraître choquant, mais je l'ai entendu de la bouche de beaucoup de personnes qui pensent qu'avoir remplacé le plastique par un matériau qui va être biodégradable, ça va finalement permettre de réduire la pollution dans l'environnement. Ce qui n'est absolument pas le cas, en fait. Parce qu'un matériau qui est dit compostable, il peut se dégrader très facilement dans un composteur à la maison. Si vous le jetez dans la nature, il peut mettre des années, voire des dizaines d'années, à se dégrader. Donc c'est un peu le risque qu'on a derrière de se dire « on a enlevé le plastique, donc on a enlevé tout risque de pollution », alors que finalement, on n'a pas vraiment traité le sujet. On n'a fait que substituer, et les flux de déchets, eux, bah, ils ne sont pas forcément réduits.
Et il existe donc une pollution vertueuse.
Bah, c'est ce qu'on essaye de croire. Bon. Mais pour nous, on ne se laisse pas avoir. Hein.
Bon, on a encore appris plein de choses. Vous restez avec nous sur RTL. On défait le monde, revient dans un tout petit instant. Ce sera la deuxième info pour briller au dîner de la soirée. À tout de suite.
RTL Soir, on défait le monde. On défait le monde dans RTL Soir. C'est l'heure de l'info pour briller au dîner.
Deuxième info pour briller au dîner de la soirée. Et c'est avec vous cette fois-ci, Laurent.
Oui, et ce confinement en plein air énerve quelques-uns d'entre vous hein, dans les 16 départements concernés.
Personne.
Enfermés dehors. Voilà, interdiction d'aller dans une autre région sauf motif impérieux professionnel. Règle des 10 km autour de chez soi respectée. Mais dans d'autres pays, dans l'histoire des confinements depuis un an, les habitants eh bien, n'étaient pas logés à la même enseigne. Par exemple, au Panama, le gouvernement avait organisé le confinement selon le sexe. Les hommes étaient invités à sortir pour faire leurs courses le mardi, jeudi et samedi. Et lundi, mercredi, vendredi, bah c'était autour des dames. Les sorties étaient limitées à 2 heures. Autres exemples ces derniers mois, en Colombie, notamment à Bogota, l'accès d'un habitant aux établissements commerciaux se faisait un jour sur deux en fonction du dernier chiffre, pair ou impair, de votre carte d'identité.
Et alors au Panama, ils avaient quand même le droit d'habiter ensemble, mais
oui,
pas
quand même.
Ah, d'accord.
C'est génial. Non, mais c'est vrai qu'il y a des confinements improbables quand même là.
Oui, en même temps, bon, on n'a peut-être pas de leçons à donner.
RTL. Le loser de la semaine.
Ah, c'est l'heure de découvrir qui a vraiment passé une sale semaine, qui s'est retrouvé dans l'œil du cyclone. Et ce soir, Marie, c'est un patron de laboratoire qui vous a inspiré.
Oui, et c'est le patron d'AstraZeneca, Pascal Sorio, c'est un Français, qui vient sans doute de passer l'une des pires semaines de sa carrière, avec non pas un, mais deux dossiers brûlants, deux boules puantes sur son bureau de Sydney, en Australie. D'abord, le problème des retards de livraison de son vaccin. Les doses n'arrivent pas dans l'Union européenne. Pour l'instant, seulement 25% ont été livrés par rapport au contrat de départ. Pascal Sorio, qui est accusé de privilégier sciemment le Royaume-Uni par rapport à l'Union européenne dans ses livraisons. C'est lui, la cible numéro 1 désignée par Bruxelles et les ministres français. Agnès Pannier-Runacher sur France Info a sorti la sulfateuse et les menaces.
Quand vous trichez, vous ne respectez pas le contrat. Donc naturellement, vous pouvez être devant le juge et avoir des sanctions. Un contrat non respecté, vous l'attaquez devant le juge. Pour qu'il sente, comme on dit, le souffle chaud sur leur croix.
Vous pensez que le patron d'AstraZeneca tremble en ce moment-là devant l'Europe?
Je pense qu'il est sur la sellette et qu'il le sait parfaitement.
Ah oui, effectivement, on entend le souffle chaud de Bruxelles dans la nuque de Pascal Sorio. Quelques jours plus tôt, le commissaire européen Thierry Breton avait déjà commencé à cogner sur Europe.
Le directeur général d'AstraZeneca, aujourd'hui, est confiné en Australie. Moi, du coup, ça m'impose d'avoir des contacts avec lui. Il y a 12 heures de décalage tous les matins à partir de 4 heures du matin. Mais c'est pas grave. Je ne le critique pas. Hein, je suis là pour ça.
Du tout. Alors non, aucune critique. Pas de problème. Le réveil à 4 heures du matin. Aucun souci. Pascal Sorio, qui en fait, on l'apprend, est une sorte de loser magnifique qui ne transige pas sur ses 8 heures de sommeil. C'est important. Et comme si ce flot de critiques ne suffisait pas, le patron d'AstraZeneca a subi le coup de grâce cette semaine.
L'Allemagne suspend sa campagne de vaccination avec AstraZeneca.
La France qui suspend donc la vaccination avec l'AstraZeneca.
L'Italie et l'Espagne stoppent aussi les injections avec le vaccin AstraZeneca.
Son vaccin soupçonné d'effets secondaires, Pascal Sorio en apnée pendant 2 jours. Suspense.
L'Agence européenne du médicament a estimé tout à l'heure que le vaccin AstraZeneca est sûr.
Les injections d'AstraZeneca vont pouvoir reprendre dès aujourd'hui.
Et le Premier ministre Jean Castex se fera vacciner lui aussi dès demain.
Tous ramdam pour finalement voir Jean Castex seringue à l'épaule sous l'œil des caméras aujourd'hui. Pascal Sorio, qui lui n'a pas de calvitie, j'ai vérifié, a quand même dû se faire quelques cheveux blancs cette semaine.
La semaine pourrie.
Pascal, en Australie, on pense à vous. Ouais,
c'est dur d'être patron. Hein.
Bon, on a un cadeau, c'est ça?
Ah, c'est l'instant que vous attendez tous.
C'est l'heure de Monsieur Cadeau.
Monsieur Cadeau, Grégory Caranoni, qui est absent.
Mais on fait comment?
Eh ben, il vous a laissé quelque chose, j'espère, mon cher Damien Béchiot, qui est aux manettes ce soir.
Pas du tout.
Ah bah tant pis, pas de cadeau.
Mais si, bien sûr que si, écoutez ce qu'il a pour vous.
Et ce soir, pour la première d'Amandine, je me disais qu'on pouvait lui rendre un petit hommage. Du coup, ce soir, vous jouez pour gagner un micro-système tout en un de la marque. Vous ne voyez pas le rapport avec Amandine?
Aucun.
Non, vous allez comprendre tout de suite. De la marque Muse. Bah oui, Amandine, c'est un peu notre muse à tous. Ce système qui prend, je sais pas ce que je vais faire. Ce système Muse comprend un lecteur CD, un tuner radio DAB+. DAB+, c'est la radio numérique. En fait, c'est pour nous écouter exactement comme vous étiez à quelques centimètres de nous en studio. Il y a aussi un port USB, le Bluetooth pour pouvoir jouer toutes vos musiques préférées et vos playlists via votre application sur votre téléphone directement sur cette enceinte. Vous pouvez aussi écouter du Muse, hein, d'ailleurs, si vous voulez. Oh.
Méga production, le cadeau.
Le micro-système Muse, c'est la chaîne Hi-Fi Design du moment. Pour en savoir plus, allez faire un tour sur muse-europe.com.
Il fait tellement bien, c'est pour ça qu'on a des beaux cadeaux à vous faire gagner. Hein. Donc bravo Monsieur Cadeau, on l'embrasse.
Et alors comment on le gagne?
La fameuse question dont défait le monde, il faut répondre. On vous parlait tout à l'heure, dans Allume la lumière, du nom compliqué pour dire plastique. Ah, vous vous souvenez? Est-ce que c'est polymère, polyfrère ou polisseur? Pour dire plastique, polymère, polyfrère ou polisseur, vous avez la bonne réponse? 32 de liste, 3-2-1-0, on tirera au sort parmi les bonnes réponses et puis on passera un coup de fil au gagnant à la fin de l'émission. A tout à l'heure.
On défait le monde sur RTL.
Bientôt 19h43 sur RTL, place maintenant au billet retour. On revient sur une info qui a fait la une et dont on ne parle presque plus aujourd'hui.
Souvenez-vous, au cœur de l'été, le 4 août dernier, scène de sidération sur le port de Beyrouth.
Beyrouth enveloppée dans un nuage de débris et de fumée noire et orange. Double explosion qui a ravagé Beyrouth.
Emmanuel Macron, premier chef d'État étranger sur place, souhaite impulser rapidement la refondation du Liban, sauf qu'un mois et demi plus tard, fin septembre.
Les dirigeants des institutions libanaises n'ont pas souhaité respecter l'engagement pris devant la France et la communauté internationale. Ils ont décidé de trahir cet engagement pris. J'ai honte pour eux.
Pas content du tout le président. Alors 6 mois après ce coup de gueule présidentiel, Brice, est-ce que ça y est, ça a enfin avancé? Est-ce qu'il y a un gouvernement? Est-ce que la reconstruction est engagée?
Alors parfois, Cyprien, quelques sons valent mieux qu'une longue explication. Bah oui. La semaine dernière, le ministre français des Affaires étrangères, Jean-Yves Le Drian, a fait 7 déclarations à propos du...
Je serais tenté de qualifier les responsables politiques libanais de non-assistance à pays en danger, tous autant qu'ils sont. Les délais sont très courts, avant l'effondrement.
Et hier, c'est Emmanuel Macron qui a enfoncé le clou.
Le temps du test de responsabilité s'achève. Il nous faudra dans les prochaines semaines sans doute changer l'approche, les méthodes, car nous ne pouvons laisser depuis août dernier le peuple libanais dans la situation où il est.
Donc en fait, il ne s'est rien passé.
Rien. Il n'y a toujours pas de gouvernement au Liban. Cette équipe de ministres, experts, détachés des intérêts, des clans, de la corruption, n'a pas été constituée. Pire, avant-hier, le président libanais Michel Aoun a pris la parole à la télévision. Il exhorte le Premier ministre Saad Hariri à présenter très vite un nouveau gouvernement. Sinon, eh bien, il devra partir. Réponse immédiate du Premier ministre Saad Hariri dans un communiqué.
Si le président est incapable de signer le décret qui vise à former le gouvernement nécessaire pour arrêter l'effondrement dont souffre le pays, alors il devra ouvrir la voie à une élection présidentielle anticipée.
En gros, le Premier ministre renvoie la balle de la responsabilité dans le camp du président. Vous le voyez, le Liban ne parvient pas à sortir des querelles claniques, ce qui désespère Charlie Arif Majdalani. Il est écrivain, il vit à Beyrouth, auteur de Beyrouth, journal d'un effondrement.
C'est désespérant parce qu'on est face à une classe politique totalement irresponsable qui semble vivre en autarcie, qui ne se rend pas compte de ce qui se produit, qui continue à se chamailler pour des questions de poste ministériel, alors que tout fout le camp. Il y a une incompréhension profonde, une aversion, une espèce de haine à l'égard de ces gens-là qui est inexprimable parce que ce qu'ils font est absolument inexprimable et insensé.
Mais alors Brice, qui gère son gouvernement ?
Mais vous savez, ce n'est pas une première. Souvenez-vous de la Belgique, plus d'un an et demi sans gouvernement en 2010-2011. En fait, dans cette situation, un pays continue de fonctionner grâce à son administration qui a quand même une forme d'autonomie. Mais le problème, c'est que sans gouvernement, eh bien, il n'y a pas de réforme nécessaire au redressement du Liban et surtout pas d'aide financière internationale puisque ces aides, elles sont conditionnées à la formation de cette nouvelle équipe gouvernementale et à la mise en place d'un nouveau système politique pour le Liban.
Et donc pendant ce temps-là, le pays s'enfonce dans une crise économique.
Oui, on peut même dire désormais que le pays s'effondre. La monnaie, la livre libanaise, a perdu près de 90% de sa valeur. Le salaire minimum, qui était de 400 euros il y a un an, vaut aujourd'hui 40 euros. Plus de la moitié de la population libanaise vit sous le seuil de pauvreté. Par exemple, le salaire d'un professeur, c'est aujourd'hui 200 euros quand une machine à laver coûte plus de 3000. Écoutez Sharif Majdalani.
Tout ce que les gens ont besoin d'acheter au quotidien devient absolument inabordable. Il y a quelques jours, le dollar est arrivé à un tel prix que les supermarchés ont fermé en pleine journée, au milieu de journée, les supermarchés ont fermé leurs portes parce qu'ils ne savaient plus comment, quel prix pratiquer. Ça a changé tellement brutalement qu'ils se sont dit que vendre à perte ou vendre à des prix absolument invraisemblables, c'est-à-dire se moquer des gens, ils ont préféré fermer.
Et dans certains supermarchés, il faut même faire appel à la police pour assurer les distributions, pour éviter les bagarres. Le taux de chômage est au-delà de 40%. Il n'y a plus de médicaments dans les pharmacies. Du coup, eh bien, les manifestations de mécontentement sont de retour dans les rues de Beyrouth et d'autres villes libanaises. Les mêmes images, en fait, que l'année dernière à la même période. Les mêmes barricades, les mêmes affrontements et le même désespoir.
Et c'est un échec d'Emmanuel Macron, peut dire ça ou pas ?
Clairement, le président français n'a pas réussi à insuffler justement le vent de changement qu'il souhaitait pour le Liban, et c'est ce que déplore Sharif Majdalani.
Dès le premier moment, on s'est tous rendu compte que ce que la France, le président Macron proposait était absolument inenvisageable, parce que nous on le sait que cette classe politique est d'une corruption telle que jamais elle n'allait obtempérer. Que le président Macron l'ait cru que quelque chose pouvait arriver comme ça par une simple sommation, pour nous était aberrant et on a eu raison finalement. Alors c'était de l'erreur, c'était de la naïveté, en tout cas le résultat est le même, ils n'ont rien fait.
Et le port qui avait explosé, il a été reconstruit ?
Mais avec quel argent, quel moyen ? En fait, sans argent, pas de travaux, pas de reconstruction. Et comme je vous le disais, cette aide financière internationale, elle ne viendra que si les politiciens libanais forment ce gouvernement. Ce n'est désormais plus urgent, mais vital pour sauver le Liban.
Billet retour signé Brice Dugénie. Vous restez avec nous sur RTL. On défait le monde. Revient bien sûr dans un tout petit instant. Ce sera la troisième info,
oui,
c'est ça, hein, pour Brio Dîner. A tout de suite.
RTL Soir, on défait le monde.
On défait le monde dans RTL Soir.
C'est l'heure de l'info pour briller au dîner.
Troisième info de la soirée pour briller au dîner, c'est avec vous Brice.
Oui, la semaine dernière, nous avons parlé ici même de l'alliance improbable pour les régionales dans les Hauts-de-France, l'union de la gauche entre les socialistes, les verts, les communistes, les insoumis. Ouais. Moi, je voulais juste
C'est compliqué déjà.
Pardon ?
Et c'est compliqué.
Oui, et déjà, c'est très compliqué à quatre. Et ben moi, je voulais vous dire qu'en République démocratique du Congo, c'est un grand état du centre de l'Afrique, capitale Kinshasa, et bien le président Félix Tshisekedi a réussi à obtenir une majorité à l'Assemblée en fédérant, non pas quatre, non pas 5, non pas 10, mais 24 formations politiques. Alors, la majorité est assez large, mais très hétéroclite. Du coup, la formation du gouvernement, avec les promesses de ministères pour chaque parti, est quasi impossible. 24 partis pour une majorité, ça ne va pas être facile à tenir pour le président congolais.
Marche ou rêve ?
Marche ou rêve, chaque semaine, vous le savez, on met en avant vos initiatives, vos projets.
Et ce soir, il n'y a pas d'âge pour devenir youtubeuse. On a eu un gros coup de cœur, Laurent.
Ah oui, comme la semaine dernière, nous sommes dans le département de la Mayenne. Je vous présente des mamies youtubeuses. Cécile, 81 ans, Suzanne, bientôt 83, ont lancé leur chaîne et elles s'enferment pendant des heures dans le garage de Suzanne, transformé en studio pour enregistrer leurs vidéos. Et Cécile est avec nous. Bonsoir Cécile.
Bonsoir à tous.
Dites-nous tout, qu'est-ce qui vous a incité à devenir des youtubeuses ?
Eh bien, écoutez, ça faisait très longtemps que nous faisions du théâtre toutes les deux. Et il y a une vingtaine d'années, Suzanne, mon amie, a eu l'idée de faire un CD de poèmes, de monologues. Alors ça partait de Lamartine en passant par Prévert avec Anne-Marie Carrière. Et puis l'an dernier, bloquée par le Covid, elle a eu l'idée de mettre certains poèmes, en DVD. Et puis, ça a bien marché. On était pas mécontente de nous. Et puis on a eu l'idée de, bah, d'écrire notre texte, c'est-à-dire de nous faire du sur-mesure.
Alors qui fait quoi? Vous filmez, vous réalisez vous-même?
Alors non, alors là, ne me demandez pas de filmer, je sais à peine tenir un appareil photo. Non, mais c'est Suzanne qui est la championne de... Je vais la faire rougir dans son coin. qui est la championne de tous ces appareils-là. Moi, je me contente de prendre ma plume et d'écrire.
C'est génial.
Alors pour écrire ce texte, il nous fallait quand même un fil conducteur. Mmh. Donc nous avons eu l'idée de... Oh là là, il y a trois messieurs sur le plateau. Je suis mal à l'aise.
Vous nous voyez.
Ils sont très sympas, vous inquiétez pas, Cécile.
Allez-y.
Alors ce sont deux copines qui vantent les mérites de la femme par rapport à l'insignifiance de l'homme. Ah. Alors pour illustrer tout ça, il nous fallait quand même quelque chose, il nous fallait une bande. Donc on a eu l'idée de chercher des tableaux et de faire une galerie de tableaux, mais qui n'ont rien à voir les uns avec les autres. Vous avez du Bernard Buffet, vous avez du classique, du moderne, du contemporain. Et on a commencé par mettre des tableaux qu'on a commentés, et puis quelquefois on a fait des commentaires et on a mis des tableaux dessus.
Bah Cécile, ce que je propose, c'est qu'on écoute un extrait justement de la vidéo que vous avez publiée sur YouTube.
Oui. Femmes, levons l'étendard de la révolte. Les femmes au pouvoir. Les femmes au pouvoir. Et donc, pourquoi pas à l'Élysée? Alors là, un bon coup de torchon, là, ça ferait pas de mal. Oula, attention, tu as vu l'heure? Oula, il est grand temps que je rentre à préparer le repas, moi. Mon mari, il est toujours ponctuel à 19h tapant. Il est à la maison. Tu le critiques, mais tu ne l'oublies pas. Mais que veux-tu?
Là, vous êtes très à l'aise. Hein. Cécile, quelle sera votre prochaine vidéo?
Eh bien là, pour le moment, on est en train de se creuser un petit peu les ménages. Ouais. On voudrait de parler du théâtre, parce qu'on est passionnés de théâtre toutes les deux. On en a fait 20, et moi, je ne me dis plus le temps que j'en ai fait, parce que c'est trop tard, c'est trop. Donc, on voudrait parler du théâtre à travers les âges, en partant du Moyen-Âge pour remonter à nos jours.
Bon, et Cécile, on vous entend, vous avez une voix super en forme. C'est quoi votre recette, votre secret?
Ben, je ne sais pas, il n'y en a pas. C'est vivre au quotidien et puis vivre le mieux possible.
Jolie leçon de vie.
Et pour retrouver les vidéos, vous pouvez vous rendre sur la chaîne YouTube de Suzanne Grudet. N'hésitez pas.
Merci Suzanne. Merci Suzanne. On vous embrasse toutes les deux.
Oui, on vous embrasse.
C'est nous qui vous remercions. Oh, merci, au revoir.
Mais bravo, hein, surtout.
Merci.
On a un gagnant.
Bah oui.
Au jeu.
Bah oui.
Il s'appelle Didier, il habite à Carquefou. Bonsoir Didier. Près de Nantes, Amandine, vous connaissez bien Nantes. Alors attendez, avant de vous dire que vous avez gagné.
Laurent aussi, hein, pardon, je connais bien Nantes.
Ah oui, c'est vrai qu'il est Nantais.
Il est Nantais, vous l'oubliez, parce qu'Amandine nous éblouit.
Alors, on va quand même répéter la question, Didier. Le mot compliqué pour dire plastique, c'est polymère, polyfrère ou polisseur?
C'était dur, hein.
Allez, polymère.
Bravo. Donc Didier, vous gagnez une chaîne IFI de compète avec micro intégré.
Wow.
Ouais, elle est super. Vous pouvez même mettre des clés USB dessus. Enfin, ça marche très bien, quoi. Vous nous écoutez souvent?
Mais bien sûr, tout le temps.
Ah, très bien. Vous méritez de gagner, du coup.
Il est comme ça.
Et vous avez vu des Parisiens, des Franciliens arriver? On a vu ça dans les journaux. Est-ce que vous, du côté de Carquefou?
Oui.
Bon, vous les accueillez
en plus,
à bras ouverts.
Dans un hôtel, donc voilà, oui.
Ouais. Vous leur crevez les pneus de la voiture?
Non.
Mais certainement pas. Non, non. Moi, je les aime, les Parisiens.
Je rigole.
Surtout quand on les bat en foot. Pardon, je vais.
Bravo.
Vous avez. Et alors, vous travaillez dans un hôtel. L'hôtel en question est ouvert?
Ah oui, tout à fait. Oui, on est ouvert, oui.
D'accord.
On travaille moins le week-end, mais là, il y a eu un petit peu de passage, grâce à vous.
Elle va vous envoyer un reporter, si ça continue, ça a l'air d'intéresser. Les Parisiens qui sont partis, là. Bon, bah, en tout cas, merci beaucoup pour votre fidélité.
Merci à vous.
Et vous restez bien en ligne, on va prendre tous vos coordonnées, on va vous envoyer cette magnifique chaîne IFI.
Merci beaucoup.
Bravo, merci à vous. Merci beaucoup, Didier. Bonne humeur. Et merci. On vous embrasse. C'est fini, hein, déjà. On est fait le monde. Ça passe trop vite.
Ouais,
c'était
merci.
Très sympa.
Bah, c'était un plaisir.
Voilà. Stéphane Carpentier, on l'espère, sera là la semaine prochaine. Bah, en tout cas, on l'embrasse bien fort.
On l'embrasse.
Passez une très belle soirée. Vous restez avec nous sur RTL. On va parler foot, bien sûr, dans un tout petit instant. Juste avant cela, ce sera le journal avec Sébastien Rouxel. Belle soirée.
Ciao. À la semaine prochaine. Merci.
Ciao.